toutes et à tous. Bienvenue dans ce 8e épisode de l'émission Ni chaud ni froid. C'est avec un grand plaisir que je reçois Mélissa Anus, qui est députée fédérale à la Chambre des représentants et présidente du Parti socialiste en province de Luxembourg. Et je suis première et je suis finale, c'est bien ça?
Tout à fait.
Ça vous fait d'innombrables rôles dans la politique. Lequel vous attire avec le plus de préférence?
Je dirais que c'est le côté proximité. Donc je suis très contente dans les prochaines semaines de pouvoir faire campagne pour devenir, je l'espère, à l'issue des élections, députée régionale. Actuellement, je suis députée au fédéral, mais de pouvoir passer à la région et d'avoir cette approche de proximité dans la politique et apporter une complémentarité à mon rôle d'échevine, c'est un projet qui me remplit d'enthousiasme et de bonheur. Donc j'espère être à la hauteur dans les prochains mois.
Ce que vous n'avez pas au fédéral, la proximité?
Ce sont des politiques quand même différentes. Il y a des politiques de proximité également. Je pense notamment à la SNCB, par exemple, pour le dossier sur lequel je me suis particulièrement penchée durant ces dernières années, durant cette législature. Mon slogan, c'est « bouger les lignes ». Donc ça marche également pour le chemin de fer, pour le rail. Mais c'est vrai qu'à la région, on a cette complémentarité vis-à-vis des politiques communales. Il y a nombreux enjeux qui se passent à la région pour l'ensemble de nos communes. Donc c'est un projet qui est complémentaire à mon rôle d'échevine. Et puisque j'ai déjà cette expérience de 5 ans, bientôt 6 ans maintenant, en tant que première échevine à Étal, je conçois cette expérience comme un plus que j'espère pouvoir apporter à la région.
Oui, c'est une expérience en plus et qui peut apporter plus. Quelles sont vos principales qualités, Madame Anus, en tant qu'individu, en tant que femme politique?
C'est difficile à dire. Je pense surtout aux qualités de mon équipe qui m'accompagne au quotidien et qui, que je remercie au passage. Combien on est en tout, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. Donc, j'ai pas de chiffres à donner, mais c'est vrai que dans mon équipe rapprochée, j'ai 3 personnes sur lesquelles je peux compter au quotidien, qui sont un peu mon pilier, on va dire. Et c'est vrai que c'est grâce à eux que, je pense, on arrive au fur et à mesure du temps à bouger les lignes dans le milieu politique. Et c'est vraiment à eux que je pense. Maintenant, à répondre à votre question de base sur quelles sont mes qualités... Ouais. Je vois souvent mes points d'amélioration, mais je dirais que les qualités, c'est de pouvoir amener toujours cette expérience déjà de députée fédérale depuis 5 ans maintenant, qui m'a permis d'apprendre énormément. Franchement, les 5 dernières années que j'ai passées, ça a été hyper formateur et je me sens maintenant beaucoup plus accomplie qu'au début de la législature, évidemment. Donc ce côté expérience, je pense que ça peut être une qualité, si je peux dire. Et pour en citer une deuxième, parce qu'il le faut bien, c'est le côté collectif. Donc j'aime bien travailler en équipe.
En équipe,
ouais. Et c'est quelque chose qui, je pense, est un plus déjà, parce qu'ensemble, on va plus loin. Mais aussi, c'est quelque chose que j'aime bien, le fait de pouvoir travailler en collaboration avec d'autres personnes, travailler sur des projets... avec des équipes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Et faire confiance.
Et faire confiance, bien sûr. Pouvoir se dire, voilà, cette partie du boulot-là, je suis prête à déléguer, à m'assurer que l'ensemble de ce qu'il y a à faire est fait. C'est vrai que c'est une marque de confiance et c'est aussi une réciprocité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a confiance en les gens avec lesquels on travaille, on doit avoir aussi cette reconnaissance du travail bien fait. Et j'espère en tout cas le montrer suffisamment au quotidien à mes collègues.
Parlez-nous de vos règles d'or pour être convaincant dans la politique.
Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut croire en ce qu'on fait, croire au message qu'on porte.
Et que les gens croient en vous aussi.
Mais la meilleure manière, je pense, de faire en sorte que les gens croient en nous, c'est déjà de croire en soi. Ça, c'est le plus important.
La règle de base.
La règle de base, effectivement. Parce que je crois que si j'ai eu la chance de pouvoir percer... en politique lors de la dernière législature, puisque j'ai été successivement élue échevine et ensuite députée, c'est parce que j'avais un message que je voulais porter auquel je crois encore fermement aujourd'hui, qui est qu'il faut bouger les lignes. C'est pour ça que je me suis lancée au départ et ça reste toujours actuel aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a tellement de choses à faire pour améliorer que ce soit nos soins de santé, que ce soit le social, que ce soit pour l'environnement, il y a encore tellement de choses à faire, que je me suis toujours dit que si je me lançais en politique, c'était pas forcément pour c'était avant tout, je dirais, pour pouvoir bouger les lignes à la fois pour, dans les structures et amener ma contribution en tant que personne pour pouvoir justement améliorer les choses dans les domaines précités.
Dans la politique, c'est dans le milieu familial, vous avez eu l'âme, comme ça vous n'avez pas des personnes de votre famille qui étaient l'âme socialiste.
Eh bien, je ne viens pas du tout d'une famille politique, pas du tout. Aucun de mes parents, mes nombreux frères et sœurs n'a jamais baigné là-dedans. Ça ne les a même jamais intéressés, en fait, au départ. Mais c'est vraiment en étant investi dans les associations de ma commune que j'ai développé ce côté d'engagement pour les autres. Ça, c'était vraiment là où ma fibre militante s'est formée. C'est lorsque j'étais ado et que je me battais pour développer un club des jeunes au départ dans mon village et ensuite une maison de jeunes. Et parallèlement, lorsque j'ai décroché mon premier job à Bruxelles dans un syndicat d'étudiants, donc une organisation représentative des étudiants, j'étais là-bas en tant que salarié et j'ai vu tous ces étudiants du supérieur qui, en marge de leurs études, continuaient à s'investir pour les autres, pour leur établissement scolaire. Et c'est vrai que c'est dans ce milieu professionnel que s'est développée chez moi cette envie d'également m'investir pour les autres. Parce que je voyais ces étudiants se dévouer corps et âme en plus de leurs études pour tenter d'améliorer les choses dans leur environnement scolaire. Et je trouvais ça extrêmement noble, en fait.
Et par rapport à ça, quelles sont les causes pour lesquelles vous luttez le plus ?
C'est la santé et l'environnement. Parce que à partir du moment où on a un environnement sain, on peut éviter de nombreux problèmes liés à la santé. À partir du moment où on a la chance de pouvoir avoir une agriculture, une alimentation saine, on évite de nombreux problèmes de santé. Et c'est vrai qu'on voit tout autour de nous, ici en province de Luxembourg singulièrement, nombre de personnes pour lesquelles les soins de santé ne sont pas forcément accessibles. Alors il y a des projets qui ont été mis en place cette législature pour améliorer nos soins de santé, que ce soit le fameux accord 4 transfrontalier entre la Belgique et le Grand-Duché qui a été mis en place et qui vise la mutualisation de l'offre de soins de manière complémentaire entre nos deux pays. C'est un dossier phare. Il y a eu la reconnaissance du centre de prise en charge du cancer du sein en province de Luxembourg avec l'antenne principale à Arlon, l'antenne satellite à Libramont. On s'est battu également pour le maintien du service d'ambulance au niveau de Libramont, par exemple. Ce sont l'ensemble des dossiers à titre exemplatif qui nous ont démontré, où on a pu démontrer véritablement notre impact politique dans les matières santé. Mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. On doit faire beaucoup plus pour améliorer nos soins de santé ici en province de Luxembourg, parce que pour une personne, quand on n'a pas la santé, eh bien, rien ne va. La santé, c'est la base, c'est la mère de toutes les autres politiques. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la société. Et en cela, je pense qu'en province de Luxembourg, on doit continuer de se battre pour faire en sorte d'améliorer notre offre, d'améliorer les conditions de travail de notre personnel soignant. On doit continuer de se battre pour attirer suffisamment de prestataires médicaux, de médecins ou de prestataires de soins. Et c'est pour ça que je me bats maintenant et je me battrai jusqu'aux négociations gouvernementales, jusqu'à ce que ça soit mis en place concrètement. Je me bats pour faire en sorte qu'une mesure fédérale soit mise en place qui vise à attirer de manière durable des médecins dans les zones rurales où il y a pénurie dans la discipline concernée. C'est absolument fondamental. Et en fait, ce principe de favoriser l'installation de prestataires médicaux dans les zones où il y a pénurie et où il y a une faible densité de population, ça semble aller de soi en termes de politique publique, mais force est de constater, malheureusement, que ce n'est pas encore le cas. Donc, j'ai une proposition que j'ai co-construite avec la mutualité socialiste de la province de Luxembourg, que nous avons co-construite ensemble, et que l'on défend actuellement auprès du ministre Frank Vandenbroek. Donc dans les prochains jours, les prochaines semaines, on espère le plus tôt possible, j'ai une interpellation auprès du ministre pour avoir son avis, pour avoir son retour sur cette proposition concrète qu'on défend ici pour les zones rurales. Pour notre territoire provincial, c'est un qui vise à lutter contre la pénurie de prestataires médicaux dans les zones rurales, sera un impact direct pour notre province et pour l'ensemble du territoire sanitaire provincial. Et donc, c'est là où moi, j'estime mettre une énergie la plus utile et efficace.
Et comment voulez-vous rapprocher des jeunes médecins des grandes villes à des petits villages ruraux?
Ben c'est justement le but de la proposition. L'idée, c'est de pouvoir majorer le revenu d'un prestataire médical en fonction du lieu où il preste. Avec l'appui d'un cadastre médical, on peut estimer la pénurie en fonction de la localité dans laquelle on se trouve. Sur base de ce cadastre, on pourrait favoriser l'installation de médecins grâce à ce système de majoration du revenu en fonction de la pénurie dans la discipline concernée, évidemment, et en fonction du facteur densité de population. Alors, tout de même, une condition supplémentaire à la proposition, c'est la condition du conventionnement. Parce qu'on voit dans les zones où il y a pénurie, et singulièrement dès lors dans les zones rurales, à partir du moment où la pénurie s'aggrave à un point culminant, à un point majeur, on assiste à un phénomène parallèle qui est le phénomène du déconventionnement. Donc les médecins qui étaient conventionnés se déconventionnent. Ce qui a évidemment des conséquences sociales importantes. En réalité, la pénurie dans notre territoire provincial, en termes médicaux, c'est la double peine pour les patients parce qu'on a une insuffisance de médecins. Ça veut dire qu'une personne qui est malade ou qui a besoin d'être vue par un médecin, soit elle téléphone à un médecin qui malheureusement ne prend plus de prestataires, ce qui arrive malheureusement souvent, qui ne prend plus de patients, pardon. Et donc, c'est la réponse qui peut être donnée par le prestataire. Soit ce sont des mois et des mois d'attente pour le patient. Et évidemment, il y a certaines raisons médicales qui ne peuvent pas attendre.
Le cancer du sein, par exemple.
Alors, ça fait peut-être exception, cette maladie particulière, parce que ici, pour les patients qui habitent, les patientes qui habitent en province de Luxembourg, elles sont justement très demandeuses de pouvoir toujours être soignées sur notre territoire et éviter les trajets. Ce qui signifie que la reconnaissance de la qualité de service du centre de prise en charge du cancer du sein en province de Luxembourg, elle est bien présente. Et c'est une reconnaissance majeure de la part des patients. Alors bien sûr, les équipes peuvent toujours avoir des besoins de renfort en matière de prestations de soins et d'équipes autour des médecins. Mais il y a d'autres disciplines aussi importantes en province de Luxembourg où il y a véritablement pénurie, à tel point que les patients ne peuvent même pas se faire soigner ici. Donc, on est obligé de devoir aller dans des plus grands centres ailleurs, hors province, pour certaines disciplines, lorsqu'on n'a pas le temps d'attendre. Et ça, évidemment, pour les patients, c'est évidemment catastrophique. Donc, toute l'idée de cette proposition, c'est de favoriser l'installation durable avec comme condition supplémentaire, comme condition sociale, le conventionnement, pour faire en sorte qu'il y ait cette accessibilité en termes géographiques, en termes de proximité, mais également cette accessibilité financière pour une grande partie de la population, ou en tout cas pour que la majeure partie de la population et que le plus grand nombre puisse avoir un accès égal aux soins de santé.
Par rapport, quels conseils de vie donneriez-vous aux personnes, aux citoyens, qui vivent dans la précarité et dont l'avenir est incertain?
Quels conseils?
Oui, pour leur donner le moral, par exemple, pour dire qu'offrez-vous?
La première chose, c'est que toute personne qui se trouve en situation de précarité sociale, que ce soit financière ou même psychologique, il existe des structures et des mesures publiques vers lesquelles ils peuvent vraiment se tourner.
Dites-nous.
Je pense par exemple, ici à Étal, on essaye vraiment de changer de paradigme autour de notre CPAS. C'est-à-dire que pour tout un chacun, CPS, on peut penser intuitivement allocation sociale, allocataires sociaux, ce qui est une partie évidemment de l'action sociale. Mais ici, on veut démontrer que l'action sociale, c'est aussi un accueil, une écoute, un soutien. Donc, toute personne qui se retrouve face à un problème dans sa vie, que ce soit vis-à-vis même de ses études, que ce soit vis-à-vis de sa famille, des situations... parfois même qu'il peut y avoir de violences conjugales ou de violences familiales, le CPAS, le Centre Public d'Action Sociale, reste la première ligne sociale à l'échelle d'un territoire communal. Donc vraiment, toute personne qui en ressent le besoin peut frapper à la porte de son CPAS. Ça, avec notre président de CPAS, Tabulois, Laurent Mazien, on essaye vraiment de faire changer l'approche qu'ont les gens vis-à-vis du CPS. Ça, c'est une première chose. Aussi, il y a un gros travail qui a été fait durant cette législature pour la prise en charge psychologique de première ligne. Donc, ça veut dire que les soins de santé mentale, l'accueil de soins de santé mentale, c'est véritablement des soins en matière de santé qui doivent se développer car on le constate de plus en plus au fur et à mesure des années, et c'est quelque chose de très actuel, une forme de mal-être social et psychologique auprès dans la population. Et donc, pouvoir avoir des soins psychologiques, un accueil psychologique, des consultations psychologiques de première ligne pour tout un chacun, c'est véritablement un projet que nous, on soutient et qui, je pense, on doit continuer de développer. Et surtout qu'on doit continuer à faire connaître. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait besoin d'une consultation psychologique pour pouvoir avoir des coups durs dans la vie, ça peut arriver à tout le monde, et avoir le besoin d'être entendu, le besoin d'être écouté, c'est quelque chose qu'on a voulu développer durant ces dernières années grâce à l'aide du soutien du ministère de la Santé. Et c'est quelque chose qui est maintenant en train de se développer à l'échelle nationale et à l'échelle wallonne. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a intérêt à mieux faire connaître auprès du grand public.
Madame Anus, on va parler à la rubrique mémographie. En fait, vous choisissez une chanson, ça représente un élément majeur de votre vie, de votre situation actuelle. Laquelle vous avez choisi?
Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est la fameuse chanson de Sia, Unstoppable. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines ont été particulièrement chargées. On a préparé l'ensemble des listes pour la région, pour le fédéral. On a organisé notre congrès de janvier. On est en train d'accompagner toutes les équipes pour organiser cette fameuse campagne. Et sur le côté, en plus, j'ai ma petite Rose qui a un an maintenant. Et donc, c'est vrai que c'est une vie trépidante où j'ai l'impression de jamais arrêter, mais c'est de l'énergie positive, en fait. Oui. Hein. Ça me booste et j'adore ce que je fais. Mais c'est sûr que ça ne s'arrête jamais. Et donc, cette musique de Sia, elle me booste souvent lorsque je fais ma petite gym le matin ou que je suis dans le train pour Bruxelles. C'est une chanson qui me donne de l'énergie et qui reflète bien mon état d'esprit du moment.
Il faut l'inviter à vos congrès.
Pardon ?
Il faut l'inviter.
Ah oui, l'inviter à notre congrès, bah, c'est une idée. Je la partagerai à l'équipe. On verra s'ils sont prêts entendre ce genre de suggestion, mais pourquoi pas? Pas sûr qu'elle accepte, mais voilà.
Nous allons passer à un petit jeu. Rubrique objection, c'est un jeu de mots.
Oui.
En fait, je cite trois objets et j'aimerais vous demander lequel de ces objets symbolique vous parle le plus personnellement et pourquoi. Par exemple, le trèfle à quatre feuilles pour la chance, le casque pour la combativité et un plat de restaurant à offrir au plus démunis. Je sais lequel vous allez choisir.
Alors, les trois me parlent, mais évidemment, il y a le troisième qui est le plat au restaurant offrir aux plus démunis, parce qu'on voit, et Enfin, moi, je l'ai vu sur le terrain. C'est malheureusement des situations qui ne sont pas connues du grand public, mais vous n'imaginez pas à quel point les situations de précarité existent en province de Luxembourg.
Il y en a beaucoup.
C'est terrible, la précarité rurale. Et alors, en cela, évidemment, il y a de nombreuses initiatives sociales qui sont mises en place par de nombreuses associations et des bénévoles partout en province de Luxembourg. Ils font un travail remarquable et c'est à saluer. Et parmi ces initiatives, il en est une que je tiens à souligner, qui a été mise en place par l'exécutif provincial cette législature, c'est le relais social, qui vise à mettre en lien les différentes initiatives sociales sur le territoire de la province de Luxembourg pour constituer une véritable porte d'entrée pour les initiatives sociales et pour ceux qui en ont besoin. Et c'était vraiment un dispositif dont nous avions besoin sur notre territoire provincial. Donc bravo encore aux équipes et singulièrement celle de Stéphane Demulle, qui est député provincial en charge du social et qui est mon collègue en effectif, deuxième effectif sur la liste régionale. Mais parmi les trois phrases que vous m'avez proposées tout à l'heure, j'aime bien aussi le casque pour la combativité, dans le sens où ça reflète bien également mon état d'esprit du moment et même mon état d'esprit de manière générale, parce que lorsqu'on veut faire bouger les lignes, c'est un combat de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour faire entendre ses idées, pour faire passer ses dossiers. Et donc c'est une phrase qui me parle. D'autant plus que le congrès de début d'année, le congrès des vœux du PS Luxembourg qu'on a organisé ici en janvier, il s'organisait à Bastogne. On avait tenu à l'organiser à Bastogne, au Bastognoir Museum plus particulièrement, parce que cette année, on fêtera en fin 2024 le 80e anniversaire de la bataille des Ardennes, qui est évidemment une date anniversaire importante pour les alliés qui ont donné leur vie sur notre territoire provincial pour défendre des idéaux de liberté et de démocratie face au régime autoritaire et extrémiste qui existait à l'époque en Europe. Et c'est vrai que ce travail de mémoire vis-à-vis de nos ancêtres et de tout ce qui s'est passé sur les territoires provinciaux, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que je trouve très important. D'autant plus qu'on voit bien malheureusement aujourd'hui des partis extrémistes monter au pouvoir dans des exécutifs européens. Si on va voter demain, le Vlaams Belang risque d'être premier parti en Flandre. Les sondages le montrent, le Vlaams Belang, avec toutes ses idées extrémistes de droite et toutes ses idées liberticides qu'ils défendent sans complexe quoi, et qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans notre société. Donc c'est une image, ce casque pour la combativité contre les idées obscures, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui me ressemble.
Et par rapport à la bataille des Ardennes, il faut aussi expliquer aux jeunes comme ce qui s'est passé comme ça, avec la montée d'extrême droite, ils peuvent se faire une idée.
Il y a un énorme travail de sensibilisation, d'information, formation pédagogique aussi à donner aux jeunes générations. C'est pourquoi moi je suis fière, durant cette législature, d'avoir pu mettre la commune d'Étel dans le projet Territoire de la mémoire. Donc c'est une association qui agit à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui vise justement à accompagner tout ce travail de la mémoire auprès des différentes générations, mais aussi des jeunes. Donc il y a des formations qui sont organisées, des expositions culturelles, des excursions aussi qui sont organisées pour visiter des anciens camps, etc. Donc tout ce travail-là, je pense qu'on doit continuer à le soutenir. Et dans les communes et dans la province, ça doit faire également partie de nos actions, plus que culturelles, de nos actions de sensibilisation contre l'extrême droite et surtout pour la défense de nos valeurs démocratiques.
Merci, Miss Agnès. Nous allons passer à la rubrique Mémographie Live. Vous avez parlé de l'autre rubrique avec une chanson de votre... qui vous a marqué dans votre vie passée, une chanson qui vous a motivé, que vous avez pensé à un souvenir proche ou qui est marquant.
Mais une chanson qui vient naturellement à l'esprit, c'est We Are the Kids and Heroes du groupe Bouncing Souls, qui est mon groupe préféré. C'est du punk rock. Et donc, j'y pense naturellement parce que, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, j'ai eu la chance de les voir pour la première fois en concert live, parce qu'ils viennent malheureusement très peu en Europe et proche de chez nous. Donc, je les ai vus pour la première fois à Southampton. Oui, voilà, tout à fait. Je les ai vus là, c'était absolument extraordinaire. Et en fait, au moment où je les ai vus, j'étais enceinte déjà de plusieurs mois, je pense de 6 mois. Quelque chose comme ça, donc j'étais la seule parmi tous les punkers du concert à être avec ma robe et le bidou de future maman. Et c'est vrai que ma petite Rose avait déjà pu, à travers le ventre, écouter les Bouncing Souls en live, et donc c'est un souvenir très positif qui me revient à l'esprit et qui me donne de l'énergie, évidemment, pour tout ce que j'ai à faire au quotidien, parce que j'estime qu'avoir aussi une vie privée épanouie, ça permet d'avoir aussi une vie professionnelle épanouie. Avoir ce juste équilibre entre les deux, un juste milieu, c'est vraiment une bonne manière de fonctionner. Donc, quand je pense à ma petite Rose et à ce fameux concert qu'elle a pu écouter après ses petites oreilles de l'époque, c'est un souvenir qui me remplit de joie, évidemment.
Nous allons bientôt terminer l'émission.
Oui.
J'ai une petite question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce qu'en politique, vous avez plus d'amis ou plus d'ennemis?
J'espère plus d'amis. On ne sait peut-être pas qui sont nos ennemis parfois. Non, c'est vrai que d'avoir mis les pieds dans le milieu politique maintenant, depuis ces 5 dernières années, j'ai été quand même agréablement surprise aussi de rencontrer des gens de haute valeur. Vraiment, il y a des personnes de grande qualité, que ce soit en province de Luxembourg, mais également à l'échelle nationale, en équipe de parti et même dans d'autres partis. Il y a vraiment des personnes extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, qui s'investissent en politique. Donc, ça m'a même presque rassurée de voir à quel point on a des personnes et des personnalités de haut vol dans l'élite politique de notre pays. Et c'est vraiment à souligner.
Les politiques sont pas des. Il y a des sympas aussi.
Oui, voilà. Il y a des sympas et puis même des personnes brillantes. Ouais. Des personnes brillantes, c'est ça aussi, moi, qui m'avait marqué. Vraiment des personnes qui ont un véritable bagage, qui mettent à disposition notre pays. Et on a quand même la chance, oui, d'avoir ces personnalités qui gardent espoir et qui continuent de se motiver à se donner corps et âme, à presque parfois tout sacrifier pour. S'investir et pour essayer de faire changer les choses, que ce soit à l'échelle wallonne ou nationale, on a vraiment des intellectuels et des personnes de haut vol parmi nous.
Heureusement qu'il y a encore des personnes comme ça.
Oui, tout à fait.
Bon, merci Madame Anus d'avoir accepté mon invitation et merci aux auditeurs pour écouter mon émission Ni chaud ni froid de Radio Sud, et merci à vous. Prenez soin de vous et à bientôt dans le prochain épisode.
Merci. It's all a question of...
own song.